Rendez-vous de midi. Musique, littérature, débat d'idées, une émission en partenariat avec la revue La Pensée de Midi. Pour cette émission de mars, nous serons plutôt sur de la musique, avec Joël Laplane, luthier, un entretien avec Elisabeth Sestor. Et puis, nous écouterons le son de la guerre, un débat à l'occasion d'une manifestation réalisée par le GRIM à Montevideo le 15 mars, qui se tiendra donc le 15 mars, et des tables rondes, des rencontres, et une réflexion autour de ce qui se joue autour du théâtre des opérations et de ce son de la guerre. Et nous aurons donc Jean-Marc Montera du GRIM, Catherine Payon de La Pensée de Midi et Gilles Suzanne aussi de la revue La Pensée de Midi. Joël Laplane, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à cette émission, à ce rendez-vous de midi, ce rendez-vous régulier, mensuel autour de la revue La Pensée de Midi. Vous savez qu'on est très attaché à ce qui se passe dans le monde méditerranéen et évidemment dans le monde musical. Donc pour vous interroger aujourd'hui, Elisabeth Sestor, qui connaît bien ce monde musical et qui va vous poser quelques questions, je serai également là pour vous écouter et partager votre métier, votre savoir autour de cet art du luthier, un art qui, je crois, s'est beaucoup exercé dans une relation avec l'Espagne. Joël Laplane.
Oui, j'ai eu la chance de rencontrer Carbonel à l'époque où je prenais des cours.
Qui est Carbonel?
Carbonel, et c'est Arthur Carbonel. Un luthier venu s'installer avec son père en 1921 à Marseille, et puis que j'ai rencontré en 72. Et donc, j'ai pu hériter d'une tradition de la construction de la guitare provenant d'Espagne et même remontant.
C'est toujours l'histoire de belles rencontres, au fond, quand on transmet un art, et comme un métier d'art, comme la lutherie. On a l'impression que ça reprend cette vieille tradition, je veux dire, du tour et des métiers d'art comme ça, qui se transmettent, si ce n'est de père en fils, en tout cas de disciple en disciple. Voilà, et que donc, c'est cette belle rencontre avec Carbonel qui vous a ouvert à ce métier de luthier.
Voilà, et cette généalogie professionnelle remonte même au 19e, dont que Florent Bousson, qui a écrit le livre « Les mondes de la guitare » édité chez l'Harmattan, a retracé un peu ce chemin et s'est posé la question de savoir pourquoi Carbonel était venu à Marseille et comment s'est transmis son métier.
Ce Carbonel venait d'Espagne ?
De Valencia, oui, c'est ça.
Donc on aurait aimé, bonjour Joël Laplane, on aurait aimé que vous nous introduisiez un peu à ce monde de la guitare espagnole, étant donné que vous êtes un luthier qui fabrique aussi bien de la guitare classique que de la guitare espagnole, et en particulier la guitare flamenca. Donc est-ce que vous pourriez nous dire un peu à quoi correspond cet univers, nous montrer un peu quelles sont les différences entre ces deux guitares, ces deux modes de jeu, d'interprétation musicale?
Oui, je vais essayer de vous faire découvrir ça. Et la guitare est construite en Espagne depuis peut-être encore plus longtemps, telle qu'on la connaît actuellement, en tout cas, depuis plus longtemps qu'en France. Et elle a été amenée en France par des gens comme Arthur Carbonel, par aussi Julián Gómez Ramírez, qui s'est installé à Paris au début des années 1900, qui a formé des luthiers comme Robert Boucher, qui lui-même a formé Daniel Friedrich. Donc il y a toute une suite de...
Toujours des histoires de transmission, c'est assez
magnifique. Oui, voilà. Et c'est un... Julián Gómez Ramírez, c'est un luthier dont je vois passer de temps en temps des instruments. Mmh. Et puis Carbonel, lui, s'est installé à Marseille.
Et vous avez fait tout un travail d'observation, en fait, au départ, pour apprendre ce métier.
Oui, j'ai appris à jouer de la guitare avec Louis Daval, qui était Louis Daval, natif de Corse, qui était venu s'installer à Marseille. Lui était né en 1904. Il a donné des cours de guitare. En fait, il a initié la guitare classique à Marseille depuis les années 30, on va dire.
Donc on a l'impression vraiment que à cet égard, Marseille est une sorte de plaque tournante de la Méditerranée et des échanges culturels à travers cette forme de la guitare. Alors justement, qu'est-ce qui est venu singulièrement de l'Espagne, et à partir de là, qu'est-ce qui vous a amené à travailler sur ce type de guitare qu'on appelle, je crois, la guitare flamenca?
Bien, c'est vrai que je me suis d'abord penché sur la construction de la guitare classique, parce que quand mon professeur de guitare, Louis Daval, m'a dit « Bon, Joël, vous avez fait des progrès, il vous faut une meilleure guitare, allez chez Carbonel. » Donc j'ai découvert l'atelier d'Arthur Carbonel, et puis j'ai été tout de suite fasciné par ce travail-là, par l'ambiance, par la précision, par le bois, par les outils. Et je me rappelle très bien, je me dis, mais comment est-ce qu'on peut faire un instrument comme ça de ses mains? La mosaïque, la sculpture, le vernis, ça me paraissait absolument impossible.
Et c'est ce que vous faites aujourd'hui.
Voilà, donc je l'ai appris.
Donc c'est pas insurmontable, c'est-à-dire que d'autres que vous, et donc peut-être de jeunes générations, on en parlera peut-être dans l'émission, c'est un métier qui ne s'est pas perdu. Mais à cet égard, donc en dehors de la figure de Carbonel, ce lien important avec l'Espagne qui vous a amené, je crois, à rencontrer quelques très grands musiciens.
Oui, la lutherie en France a connu un grand essor et continue d'ailleurs à se développer. Et puis, il y a eu une initiation un petit peu de la part de la lutherie espagnole, parce qu'on dit la guitare espagnole pour désigner la guitare classique, souvent. La guitare flamenca étant une spécialité encore plus particulière de la guitare espagnole, jouée par les flamenquistes. Et de ce fait, j'ai commencé par m'intéresser à la guitare classique. Je faisais d'ailleurs des études d'acoustique et j'ai continué aussi à pratiquer la guitare. Donc, c'est un peu ce triptyque de musicien, de scientifique et puis de technicien de la lutherie qui a construit la base de mon métier.
Et alors, on s'aperçoit en lisant le livre de Florent Bousson que vous citiez tout à l'heure que ensuite le travail avec le musicien est essentiel et a fait évoluer d'ailleurs le métier de la lutherie au cours du XXe siècle, puisque vous faites partie de ce monde des luthiers qui écoutent les musiciens pour fabriquer au mieux un instrument qui leur soit personnel et qui les accompagne comme une personne peut-être. Donc j'aimerais, si vous pouvez nous introduire un peu à ces relations que vous avez eues avec des grands musiciens de flamenco. Vous avez en particulier travaillé avec Paco de Lucía et Vicente Amigo. On va d'ailleurs en écouter des morceaux tout à l'heure.
Ouais, je crois que en tant que luthier, je me situe entre l'arbre et la musique, on pourrait dire. Et l'idée, c'est de faire un instrument qui ait les ressources sonores les plus riches et les plus variées pour qu'elles soient à disposition du musicien. C'est vrai que, comme disait Segovia, il y a une belle citation d'André Segovia, un des plus grands guitaristes du XXe siècle, qui disait que si les ressources sonores ne sont pas dans l'instrument, le talent de l'artiste ne serait pas montré, ne serait pas possible, il est lié aux ressources propres de l'instrument. Donc la communication avec les musiciens est essentielle. Et c'est vrai que quand on joue l'instrument, ça brise des barrières. Parce que quand on qualifie la sonorité d'un instrument, ou même la sensation qu'on a en le jouant, c'est-à-dire le rapport physique à l'instrument, que ce soit l'ergonomie, que ce soit la souplesse des cordes qu'on sent sous les doigts, et qui est fonction vraiment de la souplesse de la table d'harmonie, de la construction intérieure de l'instrument, eh bien, si on joue soi-même de l'instrument, je crois qu'on arrive à mieux à comprendre ce que souhaitent les guitaristes et finalement leur proposer quelque chose qui leur convient.
Il y a un rapport au fond entre la matière, le bois, les cordes, la façon de construire l'instrument et je dirais le souffle, l'âme, ce qui fait justement la singularité d'une musique. Alors, parlez-nous justement de quelques singularités, de ces belles rencontres entre un luthier et des guitaristes. Peut-être commençons par Paco de Lucía.
Paco de Lucía, je l'ai rencontré en 1987 quand il est venu à Marseille. Et puis, je lui ai présenté une guitare, comme j'ai souvent décidé de le faire, d'aller à la rencontre des grands guitaristes qui passaient près de moi, ou parfois je me suis déplacé, bien sûr, aussi. Et il a été vraiment très attiré par une des deux guitares que je lui ai montrées, et donc il a acheté et qu'il a petit à petit joué, mais dans des enregistrements. Il m'a dit qu'il a enregistré la musique du film Montoya y Tarantos à New York. Et un jour, il m'a fait aussi appeler par son secrétaire pour me dire qu'il avait joué le concerto d'Aranjuez au Japon avec cette guitare. Et récemment, le 15 mars, quand il est venu, le 15 mars 2007 à Marseille, où je l'ai rencontré aussi, il m'a dit qu'il a enregistré il a enregistré plusieurs disques, mais il ne l'a pas mis ça n'est pas écrit déjà en 89, quand il m'avait dit qu'il a enregistré un disque avec ma guitare, je lui ai demandé s'il avait mis le nom, parce que pour nous, c'est important que notre travail soit connu, quoi. Et puis l'instrument de musique influence le musicien, comme je le disais, donc c'est intéressant toujours de connaître qui a fait l'instrument.
Et il vous a dit pourquoi cette guitare lui parlait particulièrement ?
Ah, il a dit que c'était la guitare qui avait les meilleures basses qu'il connaisse. Donc c'est une avec une sonorité très ouverte, un rayonnement sonore, donc c'est ça que ça veut dire. Et puis aussi, j'ai su par un autre grand guitariste flamenco qui le connaît bien, qu'il l'utilisait dans, il l'a utilisé dans plusieurs disques parce qu'elle était très juste.
Voilà. Alors justement, vous nous avez amené des morceaux, peut-être que c'est justement un des morceaux dans lequel Paco de Lucía utilise une de vos guitares.
Voilà, il m'a dit qu'il avait utilisé pour le disque qui s'appelle Lucía.
Eh bien, on va l'écouter.
On écoute Camarón.
Joël Laplane, alors cette rencontre, j'imagine, a été assez décisive dans votre rapport à la guitare flamenca.
Voilà, dans ce morceau, Paco de Lucía joue une musique assez méditative qui est en mémoire du chanteur légendaire avec qui il a beaucoup travaillé, Camarón. Et j'ai eu la chance de rencontrer Paco de Lucía 7 ou 8 fois, que ce soit à Cannes, à Toulouse, à Marseille, plusieurs fois. Et récemment, la dernière fois en 2004, au Zénith de Montpellier, où j'ai passé une heure dans sa loge en milieu d'après-midi, parce que j'avais apporté une guitare pour qu'il l'essaye. Il a joué avec son guitariste, ils ont comparé les guitares toujours. Puis après, il nous a servi du café. Alors j'ai dit, vous buvez toujours autant de café avant les concerts. Et il m'a dit, ah oui, ça c'est pour l'adrénaline. Et après, il prépare sa guitare, il détend les cordes, il essuie les cordes. Puis on a discuté un moment comme ça. Et c'était la première fois que je passais un long moment. Et là, je parlais en espagnol, donc j'étais très fier de le faire. Et donc de la façon dont il regroupe ses musiciens, dont il les met en valeur dans son groupe, où il est entouré de musiciens qu'il met vraiment en valeur. Il est le centre de cette musique qu'il crée, avec beaucoup de génie, parce qu'il y a des choses qui n'existent pas dans, et qu'il a beaucoup créé dans cette musique flamenca. Et j'ai eu l'occasion de lui raconter ma formation avec Carbonel, donc que ma connaissance de la lutherie provenait d'Espagne. Donc c'est une rencontre très riche. et vraiment, oui, agréable, oui.
Alors, il y a d'autres rencontres décisives dans votre travail de luthier, c'est Vicente Amigo aussi.
Voilà, Vicente Amigo, je l'ai rencontré la première fois en 94, et puis je l'ai rencontré 5 ou 6 fois sur 14 ans. Donc, vous voyez que la relation, avant qu'il achète une guitare, c'était en... Je l'ai rencontré à peu près tous les 3 ou 4 ans, et je lui ai déjà montré plusieurs guitares.
Il faut les apprivoiser, hein, ces musiciens, c'est...
Oui, il y a un peu de ça, mais...
Et réciproquement, peut-être. Je veux dire, c'est justement dans un rapport très bilatéral, justement, qui fait que, à un moment, le musicien accepte le luthier et le luthier le musicien.
Voilà. Parce que le musicien a besoin d'avoir entière confiance dans le luthier et dans l'instrument qu'il va jouer. Et Vicente Amigo, je l'ai rencontré plusieurs fois. Il me disait toujours qu'il cherchait une guitare en palissandre qui soit une bonne guitare. Parce que c'est difficile. La plupart du temps, les guitares sont en cyprès. Et en palissandre, ça lui semblait difficile d'en trouver une. Et puis, j'en ai construit une. Bah, j'ai travaillé depuis plusieurs années sur la flamenca en faisant très attention à la... J'ai mieux compris, je peux le dire, d'un grand nombre d'années de pratique, que dans la guitare flamenca, il y a plusieurs éléments, notamment son poids, qui est... Ça, on le sait depuis toujours, que la guitare flamenca doit être légère. C'est ce qui lui donne sa dynamique, sa vivacité, sa clarté.
Presque sa percussion, presque son énergie, comme ça.
Voilà, mais il y a un paradoxe, c'est qu'en même temps, comme ils font beaucoup de rasguedo et puis de
rasguedo, c'est quoi pour les noms?
C'est les roulements de la main droite sur les accords. Et puis les notes piquées, les traits rapides, il faut que les cordes soient molles, qu'elles soient molles sous les doigts. Donc... On accède à une subtilité où on peut dire que la corde sous la main droite est souple. Et c'est autre chose que la tension physique de la corde qui est de l'ordre de 5 à 7 kg de tension en kilogramme force. Hein. Et là, quand on joue, si la table d'harmonie est souple, si l'instrument a une certaine souplesse dans sa structure générale, on sent que la corde est souple. Et à ce moment-là, le flamenquiste peut jouer rapidement.
Alors peut-être qu'on va écouter cette souplesse et cette énergie avec une guitare un jeu de Vicente Amigo sur une guitare de Joël Laplane.
Il est venu à l'atelier après le festival Tourski en 2006 et puis il a joué une heure là sur une guitare que je lui ai présentée. Et là je n'ai pas parlé du tout de mon travail, je lui ai laissé la guitare, j'étais assis en face de lui, il a joué la guitare sur il a joué cet instrument sur tous les registres. Et puis il y avait quelques échanges comme ça, de temps en temps, dans nos regards silencieux, une connivence, quoi. Hein, et puis jusqu'à qu'il décide d'acheter la guitare, et il a joué le morceau que nous allons entendre, qui est un de mes préférés.
Qui est ?
Et il s'appelle Tio Arango.
Vicente Amigo. Thank you. vivacité, légèreté, énergie de Vicente Amigo. Donc, vous me disiez, Joël Laplane, qu'il avait réussi à créer son propre univers musical.
Bah, il a créé un bel univers musical à côté de celui de Paco de Lucía, qui n'implique pas de comparaison. C'est deux univers musicaux différents et c'est magnifique.
Alors que tout ça, au fond, c'est né de ces rencontres qui ont lieu à Marseille. Et donc, ce qu'on ne sait pas toujours, c'est donc qu'il y a une assez grande présence flamenca dans cette ville et qu'elle est, sauf exception, assez souterraine encore.
Bah, pour citer quelques noms, déjà Valérie Duchâteau, qui est créatrice du journal Guitariste Classique Acoustique, dit que Marseille a la plus grande activité guitaristique en France. Et dans le flamenco, on pourrait citer des noms comme Juan Carmona, qui fait une très belle carrière internationale, et puis des gens comme Titi, comme Antonio Negro, et puis beaucoup d'autres guitaristes flamenquistes. Il y a une très belle présence flamenca à Marseille.
Bah, ça va peut-être donner l'idée de faire quelques belles manifestations culturelles autour du flamenco et de la guitare à Marseille.
Elle existe depuis plusieurs années au Théâtre Tourski, généré par Richard Martin. Il y a un festival flamenco au mois de mai.
Voilà une invitation à s'y rendre. Donc, si on veut en savoir un peu plus sur votre travail, Joël Laplane.
Donc, beaucoup de choses sont présentes sur mon site internet. C'est Joël, J-O-E-L, tiré de la touche 6, laplane.com, L-A-P-L-A-N-E.com.
Très bien, merci Joël Laplane, merci Elisabeth Sestor de vous avoir convié à cette émission. On va écouter encore et toujours de la guitare flamenca et écouter ces instruments que vous avez fabriqués pour ces grands guitaristes.
Merci.
Deuxième temps fort de ce rendez-vous de midi autour de la guerre, du son de la guerre et différents facettes à l'occasion d'une grande rencontre qui va donc avoir lieu le 15 mars, Jean-Marc Montera à Montevideo, c'est ça ?
Oui, entre du 12 au 15.
Du 12 au 15, donc on va parler de toute cette manifestation donc avec Jean-Marc Montera, avec Catherine Payon, bien connue des spécialistes de la musique à travers l'empreinte digitale et des lecteurs de la pensée de midi à travers sa chronique musicale. Elle nous parlera notamment du travail de Zad Moultaka. Bonjour Catherine Payon.
Bonjour.
Et puis Gilles Suzanne, qui est aussi maître de conférence à l'Université de Provence et qui a suivi un projet de résidence et de création autour de l'art plastique, des arts plastiques et de la poésie, autour de Marseille, Khartoum et Port-au-Prince. Bonjour Gilles Suzanne.
Bonjour.
Alors, on va faire le lien justement autour de cette thématique, au fond de la guerre et du son de la guerre. Alors peut-être, comme c'est autour de le cœur étant les manifestations qui vont avoir lieu du 12 au 15 mars à Montevideo. Jean-Marc Montera, peut-être pour nous expliquer d'où ça vient cette idée du son de la guerre. C'est un peu curieux de se préoccuper de ce son de la guerre. Est-ce que c'est autre chose que le son des balles ou du canon ?
Oui, bien sûr. C'est aussi ça, hein, parce que ce serait difficile d'en parler sans mentionner le son des balles et des canons. En fait, c'est dans le cadre de Son de Plateau, qui est une série de rencontres autour de gens qui font du son pour le spectacle vivant, qui aura lieu donc à Montevideo du 12 au 15 mars. Et en fait, les choses sont arrivées un petit peu, presque par hasard. Hein.
Il y a souvent des hasards qui font fort bien les choses, c'est ça ?
Très très bien. Et là, l'articulation, c'est d'abord partie du son d'amour, qui est le titre générique de la prochaine revue Dox, édité par le groupe de performeurs corse Akhenaton. Et lorsque j'ai rencontré Catherine à Avignon, qu'elle m'a présenté Zad Moultaka,
vous avez basculé de l'amour à la guerre ?
On a pas avec Catherine directement, mais ça m'a interpellé le principe de composition de Zad sur la bande son des premiers bombardements de Beyrouth en 73 ou 76, et le fait de créer une pièce électroacoustique avec une danseuse flamenque, je trouvais que c'était C'est un procédé de distanciation avec avec l'acte de guerre, qui est quand même un acte terrible, que j'ai trouvé intéressant.
Comment on arrive à transformer de la destruction en création ? Non, peut-être que Catherine Peignon, puisque c'est parti de... Comme toujours, les beaux projets de création, ils partent de belles rencontres, de moments d'échange. Donc effectivement, c'était ce moment d'échange qu'on avait fait avec La Pensée de Midi au Festival d'Avignon l'été dernier. Peut-être quelques mots justement sur cette pièce de Zad Moultaka qui s'appelle Non, et qui, si mes souvenirs sont bons, est dédiée à un ami écrivain et journaliste qui a été assassiné il y a 2 ans, je crois, à Beyrouth.
Oui, effectivement, c'est en hommage à Samir Kassir que cette pièce a été écrite et créée. Et c'était le 2 juin 2006 à Beyrouth, au cours d'une grande cérémonie à l'hommage de ce grand poète et intellectuel. Et Zad Moultaka, qui est un enfant de la guerre, on va dire, un enfant de la guerre libanaise, qui est resté au Liban jusqu'à l'âge de 16 ans, était parfaitement, comme tous ceux de sa génération, imprégné de la violence de ses sons et la violence de la guerre en général. Et en même temps, sans compréhension politique, évidemment, à ce moment-là, en tout cas profonde, de ce qui se passait. Donc, cette pièce, Non, a été écrite à partir d'un enregistrement d'une nuit de bombardement parmi les premières, en 1975, je crois. Et c'est effectivement une histoire de distanciation. Comme disait Jean-Marc, parce que tout le monde était au balcon à ce moment-là. Et le lendemain de cette première nuit, un voisin est arrivé avec cette cassette. Et le fait de tout à coup se retrouver avec l'objectivation de ce qui s'était passé la veille, enfin, c'est presque un événement fondateur dans l'acte de création et dans le destin d'artiste de Zad Moultaka.
Ce qui est très très fort dans cette pièce, Non, c'est la tension et le contraste entre, je dirais, la bande-son la partie dansée et claquée de Zelda Younes qui danse sous une forme flamenco autour de ce bruit de guerre.
Oui, en fait, non, c'est un nom d'ailleurs que Samir Kassir a prononcé et qui est publié dans un de ses derniers éditoriaux, je crois, au mois d'avril 2005, juste donc quelques semaines avant d'être tué. C'est un cri de résistance, c'est un cri de refus et de refus de l'ennemi, mais c'est un ennemi intérieur.
Oui, de l'ennemi qu'on a en soi.
Exactement.
Et qu'elle tape avec le talon. Je veux dire, cette percussion est assez extraordinaire de la façon dont elle entre en résonance avec les bruits de la guerre.
En résonance, en lutte, c'est très bon. Là, c'est justement Eros et Thanatos. C'est le mariage de Arès avec Aphrodite. Hein. C'est pour ça que l'amour et la guerre vont toujours ensemble. Il y a quelque chose comme ça de l'ordre alchimique, de l'ordre tauromachique presque dans cette pièce, puisqu'il y a une lutte entre ces sons extérieurs qui arrivent et qui la submergent, qui la harcèlent, et puis cette façon de répondre, de lutter contre eux, et puis pour finalement presque inverser les rôles et se retrouver dans une situation de climax extrêmement tendu. Après, il y a une sorte de distanciation encore, et là, il y a une disparition du son, c'est-à-dire c'est vraiment le fond, les séquelles de la guerre et de ce qu'elle laisse à travers le corps.
Alors on va entendre une partie de cette pièce, Non.
Thank you.
changement un peu de focal maintenant avec Gilles Suzanne pour faire part peut-être de son expérience, je dirais, de lieux en guerre ou en quasi-guerre, puisque vous êtes allé en résidence, vous avez accompagné cette résidence en création à Khartoum et à Port-au-Prince. Comment est-ce que, je dirais, est-ce qu'il y a une résonance entre ce que vous venez d'entendre de cette pièce de Zane Moultaka et ces moments où on sent l'imminence de la violence et de la guerre civile au Soudan ou en Haïti? Gilles Suzanne?
Bien, je dirais deux choses. Là où je trouve que ça résonne, effectivement, c'est que le projet de résidence, il était, cette résidence de création, était de provoquer un déplacement par rapport ne serait-ce qu'à la terminologie de la guerre. Donc, effectivement, ce qui était au cœur, c'était plutôt d'aller interroger ou de demander à des artistes d'aller interroger le rapport à l'hostilité. Et effectivement, ce qui se joue dans la guerre, je crois que c'est effectivement ce rapport où se joue à chaque pas que les gens franchissent un équilibre entre hospitalité et inhospitalité, d'où le thème de la résidence. Donc effectivement, ça résonne de cette manière-là, et ça résonne aussi en termes de discours qui serait que même dans des pays en crise, il y a une nécessité à aller au-delà des clichés et à dépasser la guerre comme une fatalité. Donc avant tout...
Oui, il y a toujours de la vie qui est à l'œuvre, et au fond, la présence de cette création, c'est tenter de capter cette énergie de la violence et de la guerre et de la métamorphoser.
Oui, c'est le pari pris d'aller vérifier, d'aller contribuer à maintenir, je dirais, un espace public au sens critique du terme, c'est-à-dire de permettre de constater qu'il y a encore des espaces de discussion possibles.
Un espace public, qu'est-ce que c'est au fond?
Il me semble, à deux niveaux, je pense qu'il y a dans des villes en guerre, il reste encore des espaces qui sont praticables au sens quotidien du terme.
Au quotidien,
c'est-à-dire des espaces au sens urbain du terme, des espaces physiques. Et dans ces espaces physiques-là se cultive encore, je dirais, une capacité à générer du discours public, de la parole publique.
Du discours et peut-être aussi de la culture, de l'art et de la création.
De l'art et de la création, c'est-à-dire que là, c'est la dimension, je dirais, culturelle du projet esthétique et artistique. C'est-à-dire qu'autour vient être rendu possible des discussions, des rencontres, etc.
Alors c'est peut-être dans des lieux extrêmes par rapport à un peu la mollesse démocratique dans laquelle nous vivons, que j'irais à Khartoum ou à Port-au-Prince, on a d'autres types de perceptions, j'imagine.
Oui, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a une nécessité à dépasser les clichés. C'est-à-dire que quand on dit pays en guerre ou ville en guerre, on s'aperçoit en étant à Port-au-Prince ou à Khartoum que les situations sont différentes. Ce sont des pays qu'on dit en guerre, mais dans lesquels les situations sont différentes. Je dirais que ce qui se joue à Port-au-Prince, c'est plus, pour parler d'il y a quelques temps maintenant, c'était plus une situation insurrectionnelle. Et Khartoum est la capitale d'un pays en guerre. Khartoum n'est pas en guerre. Donc là, il y a une...
Et c'est là on a toujours ces images qui font écran au sens propre.
Exactement.
Du terme, c'est-à-dire qui nous empêchent de voir et qui se sont substituées au fond à la perception, je dirais presque physique, tactile de la réalité d'un lieu. Et c'est peut-être ça le rapport au son, ou à l'image qu'on va chercher. C'est-à-dire que pour arrêter cette espèce de grande falsification, enfin ce grand malentendu dans lequel... Nous sommes aujourd'hui. Et en Haïti, parce que je crois me souvenir qu'avant votre départ en Haïti, il y avait une pointe d'inquiétude d'aller à Port-au-Prince. Et comment s'est passée la résidence?
La résidence va se passer du 20 juin au 6 juillet, entre Port-au-Prince et Jacmel. Mais bien évidemment, parce que ça demande effectivement de passer à travers l'écran, c'est-à-dire à travers cet écran médiatique et je dirais de
là aussi, il y a un travail de distanciation à faire par rapport aux images qu'on nous met dans la tête.
Exactement, complètement. Et qui demande aux artistes, effectivement, aussi de pratiquer ce genre de distanciation, d'autant plus quand ce sont des artistes qui ont l'habitude de bouger, de procéder, d'avoir des projets artistiques qui calent aussi avec des projets de vie, qui sont des projets de mobilité, etc.
Alors, peut-être Jean-Marc Montera, pour faire le lien avec ce qui va se passer du 12 au 15 mars autour du Grimm et à Montevideo, au fond, qu'est-ce qu'on va entendre, qu'est-ce qui va advenir autour de ce son de la guerre à partir de la rencontre dont on a parlé avec Catherine Payon autour de cette pièce, non, de Zane Moultaka?
Bah, tout à l'heure, on parlait du hasard, et le hasard a continué pour cette journée à œuvrer de manière quasi miraculeuse. Il se trouve que j'ai rencontré via Internet, dans un premier temps, un jeune musicien un Libanais de Beyrouth, qui, lors des derniers bombardements en 2006...
L'été 2006.
Et en été 2006, a ouvert son balcon, a branché son magnétophone et a fait un duo trompette et bombardement. Donc il vient présenter sa pièce aussi. Et dans cette
voilà une façon de parler de la Méditerranée de façon très forte et très contemporaine, justement sans nostalgie, sans pathos, et qui montre ce que c'est que la blessure de la violence et de la guerre, et notamment de cette guerre israélo-libanaise de l'été 2006.
Alors en plus, Mazen, puisqu'il s'agit de Mazen Kebaj, et avant tout connu là-bas pour ses dessins. C'est un dessinateur humoriste qui a eu une grande distance avec tout ça, et qui effectivement a un recul, a un œil d'artiste par rapport à cet acte violent que peut être un bombardement.
Donc on entendra ce duo.
Il vient présenter cette pièce, duo. Et il va y avoir une rencontre aussi, parce que je souhaitais, dans le cadre des sons de plateau, il y a toujours des gens de radio, parce que c'est le sous-titre de son de plateau, c'est faire du son pour le spectacle vivant.
C'est des chasseurs de son.
Oui, faire du son. Un spectacle vivant. Et je pense que la radio est le terrain de prédilection de ça. Donc il va y avoir René Farabé, et dans le cadre du théâtre des opérations, parce que c'est la terminologie de guerre reprise par les reporters de guerre pour signifier l'endroit où se passe le conflit, René Farabé va venir parler du centre de création, de radiophonique, qu'il a dirigé depuis 69 jusqu'à 2002, je crois. Et Jean-Marc Stricker et un autre...
Jean-Marc Stricker, qui est un journaliste très connu de Radio France, de France Inter, France Info, qui a été longtemps correspondant de guerre, notamment au Liban.
Au Liban, à Beyrouth pendant des années, et qui est maintenant spécialiste de théâtre. Donc, et un journaliste de la Suisse.
Donc on est bien dans le théâtre des opérations, dans le sens du terme.
On est au bon endroit. Et un journaliste de la radio suisse romande aussi, qui était reporter de guerre à Beyrouth.
Alors il y aura aussi un débat avec la revue La Pensée de Midi, dont on va nous parler Catherine Payon, puisqu'il se trouve qu'il y a, au moment de la guerre en Irak, avec une historienne, Marilyn Crivello, et un photographe de guerre, Jean-Marc Coutos, nous avions fait un numéro qui s'appelait « Regarder la guerre », parce que on ne veut souvent pas la regarder bien en face. Là aussi, lien avec la revue et avec une table ronde donc, qui va avoir lieu, Catherine Payon, le samedi 15 mars à Montevideo. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus ?
Bien, en fait, les protagonistes de cette table ronde sont ceux que Jean-Marc vient de décrire, Jean-Marc Stricker, et puis Zad Moultaka, et puis Mazen, et puis... Enfin, il faut noter aussi la présence de Etel Adnan, qui est une poétesse libanaise d'un certain âge aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle a... on peut dire qu'elle a un pied dans le 19e par ses parents, sujet de l'Empire ottoman. Je crois que son père était janissaire. Et un pied total et franc dans le 21e siècle. C'est-à-dire c'est une grande dame qui est en même temps écrivain, essayiste. Elle a été professeure de philosophie.
Grande figure de la littérature libanaise, effectivement.
Une grande poétesse aussi. Et puis peintre. Enfin bon, c'est quelqu'un qui a touché à tout, qui a toujours été à la pointe de la modernité.
Et qu'est-ce qui va faire le lien donc, entre ces différentes voies, la guerre ?
Alors oui, Etel Adnan, qui a vécu beaucoup aux États-Unis, au début de la guerre du Liban, a écrit une petite nouvelle qui a été publiée aux éditions des Femmes et qui est aujourd'hui malheureusement épuisée, et qui s'appelle Sit Marie Rose. Cette nouvelle d'ailleurs, qui a été publiée en plusieurs langues, a fait un tabac, par exemple, chez les Hollandais. Et aux États-Unis, ça a été très bien reçu aussi. Et en fait, cette nouvelle traite de la transformation. C'est un mot très important quand on veut parler de la guerre. La transformation qui agit à tous les niveaux et notamment qui transforme les êtres qui sont des êtres, donc au début de la nouvelle, des êtres tout à fait ordinaires avec chacun leur bon côté, leur mauvais côté. Et en situation de guerre, on les voit se transformer. Certains deviennent des héros et puis d'autres deviennent des bourreaux. Et il y avait cette idée de l'aspect tératologique, si j'ose dire, de la guerre, c'est-à-dire qui transforme, qui peut transformer, hein, la guerre et la violence, qui peuvent transformer un être humain tout à fait bien sous tout rapport en tortionnaire.
Et la fragilité, le basculement qu'on a vu dans tous les conflits et dans tous ces moments extrêmes qui sont... peut-être quelques mots encore, Jean-Marc Monterrand et Gilles Suzanne, pour parler de ce moment et de ce rendez-vous, de comment, au fond, le rapport à la guerre et à la création sont néanmoins possibles, que cet alliage improbable peut être fertile.
Oui. C'est moi, ce que je souhaiterais qu'on rencontre là à l'occasion de cette journée et de ces débats et des concerts et des représentations qui va y avoir le 15 mars, c'est un petit peu la synthèse entre Bain de sang de Chomsky et l'éloge des bruits de Luigi Russolo, qu'on ait le point de contact de l'endroit où ça peut faire mal et avec la possibilité de l'espace et de l'espoir où ça pourrait faire du bien, c'est-à-dire que ça s'arrête, quoi.
C'est effectivement, on parlait du numéro Regarder la guerre, on a à l'occasion du rapport au Liban fait ce numéro de la Pensée de Midi, Beyrouth, 21e siècle, où justement ces échos de la guerre, ces enfants de la guerre nous racontent Beyrouth. Je pense que il y a aussi des paroles et des textes qui vont naître, ou des œuvres plastiques qui vont naître des résidences à Khartoum et à Port-au-Prince, Gilles Suzanne.
Oui, mais complètement, c'est déjà en partie le cas. D'abord, ce sont des rencontres, pour commencer par là, et à Port-au-Prince, en tout cas, ça sera des rencontres poétiques, donc autour des arts plastiques, en poésie, Julien Blaine et Franck Etienne, donc, qui est un poète haïtien, dramaturge, romancier, et cinq plasticiens, donc entre autres deux plasticiens haïtiens, donc Maxence Denis et Mario Benjamin, et trois autres plasticiens, une plasticienne gabonaise, qui est Solange Toukim, un plasticien réunionnais, Jack Benti, et un plasticien soudanais, Salah El Nour. Donc d'abord, ce sont des rencontres, et je me reconnais assez dans ce que disait Catherine Payon sur cette notion de transformation, de métamorphose, parce que là, vraiment, au cœur de ces créations-là, on va expérimenter la manière de repratiquer de la négociation dans des choses qui se sont fragmentées, c'est-à-dire la parole publique, l'espace
public.
Là où
la négociation n'est justement plus possible.
Là où la négociation n'est plus possible.
Je veux dire, c'est les armes qui parlent, et il n'y a plus plus de parole. Donc c'est réintroduire du sens, de la parole, de la vie.
Oui, ou je dirais plutôt que c'est pas qu'il n'y a plus de parole, c'est que la parole est éminemment fragmentée. Au même sens que les identités, au même sens que les espaces, on se retrouve à circuler d'espace clos en espace clos, d'espace surveillé en espace surveillé. La parole commence à se feuilleter parce qu'elle est plus ou moins surveillée selon les espaces.
Elle est toujours là, mais elle est souterraine.
Voilà. Donc là, au cœur de ces créations, il me semble que là viennent se créer des espaces de recomposition où les choses recommencent à se croiser en termes d'espace, en termes de parole, en termes d'identité. Donc la discussion, je dirais, le dialogue redevient possible dans ces moments-là. Il me semble que c'est un peu ce qu'il y a de fondamental, puisque si on devait mettre un pendant au terme d'hostilité, moi j'aurais bien envie de mettre le mot dialogue. Et je pense qu'il y aurait quelque chose à travailler en termes de thématique, esthétique autour de cette chose-là, entre dialogue et hostilité.
Eh bien, merci Gilles Suzanne. Rendez-vous donc pour aller plus loin le samedi 15 mars à Montevideo. Puis il y a une série de concerts avant, entre le 12 et le 15 mars. On pourra avoir le détail sur le site de la Pensée de Midi, du Grimm et de cette émission. Donc merci à Jean-Marc Montera et à Catherine Payon. Et venez nombreux à ces manifestations autour du son de la guerre. Rendez-vous de midi, une émission proposée en partenariat avec la revue La Pensée de Midi. Nous avons accueilli au cours de cette émission le luthier Joël Laplane pour un entretien avec Elisabeth Sestor et Thierry Fabre. Et puis une table ronde, une discussion autour du son de la guerre avec Jean-Marc Montera du Grimm, Gilles Suzanne de l'Université de Provence et Catherine Payon, productrice musicale et critique à la revue La Pensée de Midi, sur la musique. Donc le son de la guerre avec ce rendez-vous annoncé pour le 15 mars à Montevideo. Merci de votre attention et à bientôt le mois prochain pour un nouveau rendez-vous de midi.